Il m'y hébergera, les contes de Caliban, le coup de la belle-mère. Menacé de l'une de ces revendications auxquelles tout écrivain est en but lorsqu'il affuble d'une patronymie déclarée au bottin le personnage le plus fictif de comédie et de roman, j'estime sage d'en revenir au système du vieux répertoire ou de la Bruyère et d'appeler paisiblement Éraste, Clitandre, Araminte et Bélise les types, comme on dit aujourd'hui, de ce conte philosophique. Frère de père et de mère, Clitandre l'aîné et le cadet Éraste étaient unis à souhait et ils s'aimaient exemplairement avant le mariage de ce dernier avec la charmante Araminte, fille de Bélise. Ils vivaient alors ensemble dans un même appartement suburbain à Levallois, y mettant en commun leurs ennuis, leurs plaisirs et leurs ressources, et jeunes, ils attendaient la fortune. Or, ce vit au cadet qu'elle sourit, et sans respect du rang d'âge. Il est vrai qu'Éraste était blond, joli garçon, et des deux le plus fataliste, voire dénué de toute force volitive, une chiffe enfin. C'est elle que, sur mon pneu, les recherches la déesse aux yeux bandés. Cette chiffe était de toute éternité dévolue au chiffon. Employé d'un grand bazar universel de la ville-lumière, il y rayonnait, c'est le mot, au comptoir de la soierie, et sa journée vécue dans le sourire professionnel, il rejoignait son frère à un petit café de la place du Havre, où se livraient des matchs de billard. Clitandre se piquait de carambolage et, brun aussi tenace que le blond était veule, il laissait sur le tapis la bonne moitié de ce qu'il gagnait à son métier de courtier d'assurance. Mais tout s'équilibrait au fin de mois grâce à l'entente fraternelle dans la bourse à deux pochettes. Celui qui, du fond des nues, règle les choses de ce monde s'amusa donc un jour pour tenir le diable en haleine à conduire Araminte, jeune fille pleine d'agréments du 8e à l'étalage miroitant, où l'indolent Éraste, le crayon d'or en flèche à l'oreille, chiffonnait les soldes des failles et honnait les coupons de satin. Le doux commis, marqué de Dieu, emplissait son idéal de vierge. Et comme il le vivifiait aux yeux de Bélise, mère docile, deux destinées se nouèrent en une. Ainsi, deux wagons s'accrochent en gare, avec la petite secousse, pour des voyages moins longs que celui de la vie. Et le mariage fut. Vous cacherai-je que le beau matin où l'adjoint du maire empêché du 8e mit la main à Araminte dans celle d'Éraste, il y déposait du même coup, au nom des lois, un portefeuille conjugal de 22 000 livres de rente. La société paraphait ainsi l'œuvre amoureuse de la nature. Cette dot, à la vérité, n'était qu'une espérance. Elle était formée des revenus locatifs d'un immeuble à 6 étages, 6 rue de Rome, dont Bélise était propriétaire. Elle en occupait elle-même le 2e avec sa fille, et comme celle-ci, en dépit de la prescription biblique, avait déclaré devant le notaire en personne que jamais elle ne quitterait sa mère, et que le mariage était à ce prix ni plus ni moins, on s'était accommodé pour partager l'habitacle, spacieux du reste et où il n'y eut d'individu que la salle à manger et la salle de famille. Éraste, ai-je besoin de le dire, acquiesça à tout ce que voulait Araminte. Et 8 jours après les noces, il jouissait de cette béatitude que symbolise l'image gastronomique du coq en pâte. Si le titre de belle-mère est devenu, grâce aux physiologistes du mariage, synonyme de mégère, Bélise n'était vraiment pas une belle-mère. Nul n'en mérita moins l'injure que cette douce dame, discrète, toujours affable et gaie, et si jolie encore, car elle avait dû l'être un miracle, dans la Saint-Martin de sa quarantaine, que Clitandre, expert en cette horticulture, la comparait à une rose de Noël poudrée de neige. Pauvre Clitandre! Dédoublé de son cadet, il ne s'amusait guère à Levallois, en ce logis sans écho, et désormais trop vaste, surtout les jours de terme. L'art du carambolage lui devenait plutôt rebelle. Car lorsqu'on n'y préexcelle pas tout de suite, les professionnels vous le diront, on en reste toujours à la moyenne bourgeoisie. Pour cette raison, et d'autres d'ordre sentimental, il résolut de se rapprocher de sa famille d'élection, multiplia ses visites aux rues de Rome, notamment à l'heure expansive des repas, et accepta enfin, avant qu'on lui eût offert, de transporter son lit de fer et ses quatre chaises de paille dans une garçonnière de l'immeuble qu'un congé rendait disponible. Bélise regarda son gendre, qui regardait sa femme, qui regardait par terre en ce moment. Vous savez les conséquences de ces hospitalisations indécises, désespoir des concierges, dont la parenté seule signe les baux et présente les quittances. On ne vivait d'abord que sous le même toit, et on vit bientôt sous le même plafond, par pure économie de gaz et de chauffage. On avait sa serviette blanche le dimanche, on a son nom rond toute la semaine. Si le cadet est de la même taille que l'aîné, s'ils ont la même pointure, ou peu s'en faut, des pieds, un contour approximativement identique de boîte crânienne, pourquoi divers tailleurs, chapelet et bottier, pour chacun de nos mutualistes? Un seul suffit et le même. Et bien le tour de la bourse. Un jour, l'anneau qui divisait les deux pochettes glisse sur le côté vide, tombe, on ne sait où, s'égare, et ça y est. « Oh, je me sens encore à Levallois, » disait Clitandre à Éraste, qui regardait sa femme, qui regardait sa mère, dont le délicieux sourire fixé sur la tenture semblait refléter le ton jaune. En ces instants de gêne et pour eux, Clitandre en avait trouvé une bien bonne. Il se levait, piquait droit au couple, et s'écriait en agitant les bras comme aile de moulin, « Eh bien, et c'est le neveu des nièces. Pour quand est-ce? Qu'est-ce que vous faites donc au lit depuis un an ?»« Voilà l'oncle, il attend. » Et de croiser les bras dans l'attitude. Puis il reprenait un petit verre. Ce qui devait advenir advint, vous l'avez deviné du reste. Outre que le 22 000 livres de revenus, ses cornets, du manque à gagner du loyer de la garçonnière, des frais supplémentaires d'alimentation recommandés par une magnifique fourchette et d'appels réitérés à l'escarcelle, mal nouée du faible Éraste, la jeune épousée était harassée d'une assiduité à la fois ruineuse et indiscrète qui tournait à la pure cohabitation. « Mais j'ai pas épousé ton frère » lança-t-elle un soir dans l'alcôve à son mari, fort énervé d'ailleurs par des coliques. « Ben, dis-moi ta mère » eut-il le tort de répondre. « Ingrat » fit-elle trop significative. « C'est bien, demain je rentrerai au magasin, ma place est chaude. » Et Araminte pleura toute la nuit dans la ruelle. C'était leur première dispute. Il s'en excusa sur son indisposition. Mais elle fut suivie à bref délai par une deuxième, puis quotidiennement par 20 autres, toujours plus aigres. « Oh, mes chers enfants, » soupirait Bélisse, « votre bonheur se disloque. » Quoique Clitandre sentit venir l'orage, car il n'était point sot, et loin de là, il n'en perdait pas une bouchée. L'aîné était sûr du cadet, et plus encore le brun du blond. « Il me flanquera pas à la porte, peut-être, se disait-il. Et d'ailleurs, est-ce la belle-mère ? Quel rêve satanique berçait-il dans cette idée de derrière la tête ? C'est ce que vous saurez tout à l'heure. » Le dimanche suivant, les cloches sonnaient la fête patronale d'Araminte. On devait la festoyer pour un dîner fleuri, suivi d'une réception en vue de laquelle Clitandre se mit en frais de poésie. Il pinçait de la crostiche. Mais le potage annoncé, Araminte refusa de s'asseoir à table, et cela sans excuse ou prétexte, délibérément, dans l'expression d'une volonté immuable. Elle voulait en finir, et ce soir-là, par une esclandre. « Mais puisque nous sommes à l'auberge, faites-moi servir dans ma chambre, » dit-elle à son mari. Et, précisant la situation, elle le somma de choisir entre son frère et sa femme. Le malheureux, usé par les débats, journalier, d'une lutte intestine, et comprenant qu'il y allait cette fois de son bien-être, s'en vint la tête basse, à cri tendre et à son « Qu'y a-t-il là ?» répondit l'autre atterré. « Mais tu la rases !»« M'en vais alors ? Va-t'en, oui ! Où ? Ben, le Valois, j'irai te voir. Te dérange pas. Bon appétit et à demain !» Le lendemain, en effet, un peu avant midi, Clitandre se faisait annoncer correctement chez Eraste. Il entra, ganté de blanc, rasé de frais, frisé au petit fer et tube du 18e reflet des grands jours. « Oh, je ne te tiendrai pas longtemps, » distilla-t-il. « Je viens t'aviser d'une bonne nouvelle. Je fais une fin à ton exemple. Je me marie. Toi ? » Oui, moi-même, mon mariage, comme le tien, accorde l'amour et l'intérêt. Elle est charmante, elle ressemble même en mieux à ta femme et elle a 22 000 livres de rente. Du reste, tu la connais, Raste, puisque c'est ta délicieuse belle-mère, la rose de Noël poudrée de neige. Et, saluant dans les rites, « Eh bien oui, j'ai l'honneur de te demander sa main. » Et Raste, écarquillé, le regardait stupide. « Mais es-tu devenu fou, Clitandre ?»« De l'épouser, mais qui m'en empêche ? Rien dans les mœurs, rien dans les lois, et je l'aime. Puis-je avoir, veuille m'annoncer, je te prie. » Et après une brève disparition, le cadet reparut avec sa femme. « Maman vient de sortir, » sursura Araminte d'une voix toute de miel. « Mais vous déjeunez avec nous, n'est-ce pas, mon frère ?» Et Clitandre y est encore. « C'est le coup, dit, de la belle-mère. »